fabrique à la Saint-Martin flottent des chiens crevés près de l'écluse. Il rôde un assassin. Quelque part dans le quartier, c'est plein de femmes étranglées. Plein de femmes étranglées.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous venez de reconnaître notre petite musique de Charlie Brown pour introduire notre émission Au fil des pages. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et nous nous retrouvons une fois de plus en direct, 1h30 pour parler de livres, échanger avec des acteurs de la chaîne du livre, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter Au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Dominique, Francis et aujourd'hui notre invitée Monica Jornet pour ses livres Libre pensée sous licence poétique en 2 volumes mais aussi sans sonnet publiés aux éditions Libertaire. Frédéric, des annonces peut-être ?
Oui, tout à fait. Alors, 2 belles annonces d'ailleurs. Alors, je veux pas dire que celle que j'avais dit avant n'était pas belle, bien sûr. Alors, le samedi 25 mai, la montée au mur des fédérés, oui, qui aura lieu, bien sûr, à partir de 11h à la place des fêtes, rassemblement festif, concert, animation. Puis ensuite, à partir de 14h30, départ du cortège, place des fêtes, rue de Belleville, rue de Jourdain, rue des Pyrénées, place Gambetta, avenue Gambetta, rue des Rondeaux, arrivée au cimetière du Père-Lachaise pour commémorer la fin de la Commune de Paris 1871. Et puis, notre annonce, le colloque Michel Ragon. La revue Fragments et Cercles culturels de littérature ouvrière et paysanne et sociale, le CLOPS, vous invite au colloque de Michel Ragon à l'occasion du centenaire de sa naissance, les 8 et 9 juin. Au programme, conférences, débats, lectures, théâtre, projections, librairie et restauration. Alors c'est quand ? Le 8 et 9 juin, de 10h à 17h ou à l'AGK. Et l'AGK se trouve 177 rue de Charonne. Dans le 11e et le métro, c'est Alexandre Dumas. C'est mieux, c'est pas rue de Charonne, faut remonter. Alexandre Dumas, c'est mieux. Voilà. Allez, je repasse le micro, Francis.
Bon, merci Frédéric. Troisième annonce, là, les éditions Sileps fêtent leur 40 ans. Et donc, le jeudi 6 juin, à partir de 18h30, eh bien, on trouvera des livres, des échanges, des auteurs, des débats, rue de la Grange-Aubelle, au métro Colonel Fabien. Voilà. En plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, mais aussi sur le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Alors, au programme de cette émission, eh bien, commençons par un livre qui me paraît important parce que nous parlons beaucoup en ce moment des migrants, nous parlons beaucoup des élections accessoirement européennes. Alors, cette Europe, que fait-elle par rapport à ces migrants ? Eh bien, un livre nous a été présenté, je l'avais d'ailleurs développé sur le diaphrède qui est en train de s'enrhumer très tranquillement, là, et bon, c'est comme ça, il a pris le froid, le pauvre diable, au congrès de la Fédération anarchiste. Et donc là, c'est un livre pour réfléchir et pour engager le débat sur la notion d'exil. J'avais intitulé ça « S'exiler, une souffrance éternelle ». Les éditions d'une rive à l'autre ont pris une belle initiative éditoriale Rappelons, je cite, qu'elles sont nées du, je cite, hein, du désir de créer des résonances entre la photographie et les sciences humaines. Chaque livre publié accueille ainsi les images d'un, d'une photographe et les mots d'un, d'une sociologue, d'un, d'une historienne, anthropologue, philosophe. Ces regards croisés suscitent en nous, disent-ils, des réflexions et éclairent d'un jour nouveau les questions que notre époque soulève. Leur récente publication, Penser avec la frontière, s'appuie sur les photographies de Bastien Deschamps avec un texte de Sophie Gigot, philosophe. Un ensemble qui impressionne le lecteur, marque vraiment, texte et photographie à l'appui, la réflexion. Indéniablement, vous ne regarderez plus les exilés de la même manière. Question image. Eh bien, un livre en gris et noir, pas vraiment en noir et blanc là, mais en gris et noir. Des photos intenses. Alors les photos, elles sont en noir et blanc, mais des photos intenses en première partie, comme pour mieux nous imprégner de l'atmosphère. Un flou, une aube qui se lève, des visages cachés dans la rue, l'attente. L'attente de passer en Europe. Pas de légende. À quoi bon ? Les prises de vue sont presque intemporelles. Certaines relèvent de la gravure, comme cette façade en bois. Des témoignages, symboles de la violence des gardes-frontières turcs et grecs. L'immensité des montagnes à traverser. Une zone de tous les dangers. C'est-à-dire qu'on voit toujours la frontière comme étant... un trait de crayon, pas du tout. Là, c'est une zone très importante et les exilés d'une 40-45 kilomètres et les exilés qui s'aventurent là, eh bien, peuvent se retrouver dans une forme de no man's land, quitte à y mourir. Et on les laisse mourir. Les images pourraient suffire, mais le texte de Sophie Gigot explique, souligne, donne à réfléchir sur les violences aux frontières de l'Europe. Et le dos de Youssef, dit-elle, ressemble à une photographie aérienne de la vallée de l'Evros. On y aperçoit les sillons gravés par les violents refoulements à la frontière, ils font pas de cadeaux, les traces de coups qui érodent la chair, creusent comme des gorges plus profondes à même la peau. La terre ne ment pas, le corps non plus, leur matérialité nous offre une cartographie de ce qui se vit aux frontières, une preuve à charge contre les politiques brutales, savamment dissimulées. Sur 480 kilomètres de frontières, la même violence, un fleuve qui recueille parfois les corps des noyés, des rejetés sur l'une des îles, des associations dénoncent ces refoulements perpétrés, transformant la frontière en zone de non-droit où la force prime sur la justice. Vous rendez compte, c'est quand même incroyable, c'est que c'est l'Europe qui se plaît à parler d'état de droit et qui refuse d'appliquer ce droit à ses exilés. Et cette situation, on la retrouve aussi en France, à Calais notamment. Que va-t-il se passer ? Eh bien, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est en train d'organiser, soyons clairs, une chasse à l'étranger. On fabrique l'inhospitalité, comme le dénonce Sophie Gigot, en saccageant les territoires pour les rendre inhabitables. On oppose le citoyen à l'étranger. Est-ce que la politique sécuritaire ralentit la venue des exilés ? Mais non ! Elle augmente le nombre de ceux qui meurent, c'est tout. Alors certains s'en désintéressent totalement. 50 000 sont morts officiellement en 2014. La politique, la vie politique en Europe rend difficile en raison des clivages toute discussion sur le sujet et la violence l'emporte sur la raison. Nous le voyons bien, nous, en France, la montée en puissance des mouvements extrémistes, des mouvements racistes, l'atmosphère au relent fascisant s'alimente des contradictions, à savoir souveraineté nationale et justice internationale, demande légitime de l'hospitalité ou métaphore foudroyante, et toujours cette irrationnelle raison d'État qui permet la négation du droit et des droits de la personne humaine. L'exil, tenez, puisque nous sommes dans, au fil des pages, une référence d'un auteur que j'aime beaucoup, Stefan Zweig, l'exil c'est la souffrance. Stefan Zweig écrivait « S'exiler, s'arracher à la terre qui vous a vu naître, à sa famille, à sa langue maternelle, à sa culture, Qui peut croire que les exilés sont les aventuriers sur le modèle des explorateurs ou des colons européens ? Et Sophie Chico ajoute, ce ne sont pas des personnes en quête de profit, mais en quête d'un refuge. Je reprends la conclusion du livre. Les frontières ne sont pas seulement fermées pour ceux qui en exil tentent de les franchir, elles enferment aussi ceux qui vivent à l'intérieur, le dénouement, c'est un peu ce que je voudrais, moi, c'est qu'il y ait du dévouement. Le dénouement, c'est donc l'émancipation par l'ouverture des frontières. Un très beau livre, pas très épais, un très beau livre de Bastien Deschamps, Sophie Gigot, « Penser avec la frontière » aux éditions D'une rive à l'autre, publié cette année en 2024. Et puis, puisque nous parlons de frontières, eh bien, je voudrais que nous passions une chanson interprétée par Francesca Solville et qui s'intitule justement « Frontières ». Frédéric.
C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières ? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, en faire un foin, hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires? Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier du chien qui erre. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Paraît d'ailleurs que les bohémiens, c'est dans leur gêne le goût de l'air. Que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters. Que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières?
Enfin, comme à l'accoutumée dans cette émission, un petit tour dans une exposition, dans cette rubrique, un catalogue, une exposition. Agnès nous invite à visiter l'exposition Auguste Herbin, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Le maître révélé au musée de Montmartre à Paris, bien sûr. Alors Agnès, cette expo ?
Alors déjà, il faut savoir que cette exposition est jusqu'au 15 septembre 2024 et que le catalogue est paru aux éditions Elviso. Le musée Montmartre est le premier musée parisien à réaliser une rétrospective de l'œuvre de Gustave Herbin. Pourtant, celle-ci s'est construite de façon ininterrompue de 1900 à 1960. Il a participé à tous les grands mouvements, d'abord le fauvisme, puis le cubisme, enfin l'abstraction. On ne peut que s'étonner que cet artiste soit disparu de l'histoire de l'art à la fin du siècle passé. Cette exposition le remet en valeur.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple ?
Alors, dans le cadre de l'exposition universelle, Auguste Herbin orne le palais de l'électricité de trois compositions monumentales sur le thème du mouvement. Puis, l'artiste fera ses premières apparitions en 1906 au Salon des Indépendants, où il sera très remarqué par un marchand, Willem Hunde, qui l'accompagnera de nombreuses années, ce qui lui permettra d'exposer aussi en Allemagne, puis en Suisse et au Royaume-Uni. Sa peinture, je cite Willem Hunde, n'est pas une chose inintéressante, mais grande et belle. Elle n'occupe pas par des démarches cérébrales notre intelligence, mais elle évoque par sa passion la nôtre. C'est tout d'abord notre cœur qui la remercie.
Alors après ça, il va passer à autre chose que le fauvisme.
Voilà. Et ce fauvisme à peine établi succède le cubisme. Auguste Herbin s'installe au bateau Lavoir, découvre Cézanne, il fera partie des inventeurs du cubisme au même titre que Picasso et Braque.
J'imagine qu'au bateau Lavoir, il va rencontrer Picasso alors.
Tout à fait, ouais, oui, bien ouais, sûr.
Et puis après, et Braque aussi. Et après, on va dans les années 20, quoi.
Et dans les années 20, il retourne vers la peinture réaliste, comme beaucoup de peintres de l'époque d'ailleurs, inspiré par le côté monumental de l'art allemand. Mais il reviendra rapidement à l'art abstrait, inspiré par Le Corbusier. En 1937, il sera un des acteurs majeurs aux côtés de Robert Delaunay de la peinture abstraite. En 1925, au moment de l'ouverture de la Revue Nègre, dont l'étoile, je vous rappelle, fut Joseph Fiedbecker, on en parlait dernièrement.
Oui, dans la dernière émission.
Tout à fait. Auguste Herbin réalisera l'affiche du bal de la Grande Ourse. C'est une lithographie en deux couleurs, rouge et brun, très graphique. En 1931, ensuite, il créera l'association Abstraction Création, qui réunissait les artistes abstraits de toute l'Europe, organisant des expositions, éditant de nombreuses publications. Paris deviendra la capitale de l'art abstrait. En 1949, dans son ouvrage « L'art non figuratif, non objectif » chez Lydia Conti, Herbin dévoilera son alphabet plastique.
Alors ça, c'est très intéressant, très
c'est
original.
C'est absolument
ça.
Incroyable. Il concevait cet alphabet comme un langage universel, liant des formes, des couleurs, les lettres de l'alphabet et les notes de musique. Il concevra plusieurs tableaux selon ce système d'alphabet plastique aux couleurs et formes choisies. Comme par exemple le tableau pluie, parfum, unité, île, voire son propre nom. Cet alphabet plastique qu'évoque l'artiste est un abécédaire comprenant quatre formes géométriques. Le cercle, le demi-cercle, le carré, le triangle isocèle, un ensemble de couleurs, les 26 lettres de l'alphabet et 7 notes de la gamme.
Je crois que tu t'es essayé à faire ton nom, ton prénom.
J'ai essayé à faire mon prénom et ceux de mes enfants aussi.
Alors ça donne quoi pour ton nom, pour ton prénom, pardon ?
Alors j'ai le carré, le rond, le triangle isocèle et un triangle supplémentaire et un demi-cercle supplémentaire.
Alors, cet alphabet s'inspire de poésie, de musique.
Oui, il est inspiré de la poésie des voyelles de Rimbaud et de Jean-Sébastien Bach, dont la musique lui paraissait architecturale. Pour lui, la couleur comme les sons de musique sont des vibrations de la matière. Si les notes font vibrer le tympan, les couleurs font vibrer le fond de l'œil et agissent sur la rétine. Parmi les grands abstraits, celui qui est sans doute allé le plus loin dans le sens de l'invention du code pictural, c'est Auguste Herbin. Pour ceux qui connaissent ce peintre abstrait, je crois que c'est un des seuls abstraits qui soit vraiment dans son essence un coloriste, dit Gilles Deleuze du peintre.
Le philosophe Gilles Deleuze.
Voilà. Auguste Herpin eut un vif succès et fut largement reconnu. Et dans la période de sa carrière, il aura exercé une influence considérable dans la vie artistique française. Son prestige a été sans égal et beaucoup d'artistes s'en inspireront, comme par exemple Vasarely. Son art est celui d'un homme libre qui a résisté aux formules faciles, écrit Serge Lemoine, auteur du catalogue de l'exposition. C'est vraiment une exposition épatante, transportante, à voir absolument. Elle donne envie de faire plein de choses après, derrière. Pour information, l'ouvrage et l'exposition ont été réalisés avec le soutien de la galerie La Humière. L'auteur de l'ouvrage est donc Serge Lemoine, professeur à la Sorbonne, le commissaire de l'exposition et du catalogue, et Céline Berbiche, historienne. Je vous en rappelle les informations essentielles. Exposition Auguste Herpin, le maître révélé, 1882 à 1960, au musée de Montparnasse, jusqu'au 15 septembre 2024. Et le catalogue de l'exposition, paru aux éditions Elviso.
Très bien, merci. Alors, comme disaient certains dans les journaux télévisés, à une certaine époque, sans transition, vous avez peut-être entendu parler de la sensibilité anarchiste qui a connu la variante naturiste. Eh bien, nous allons parler d'un livre, Histoire du club gymnique, comme on disait, naturiste, donc gymnique, de France. En effet, il y a eu des pionniers du naturisme et de la nudité, et les anarchistes le furent il y a plus d'un siècle déjà, et depuis, bon, ils ont un peu déserté le bateau du nu en liberté, mais il se pourrait qu'aujourd'hui d'autres naturistes veuillent reprendre le flambeau, et nous avons là un livre qui nous est proposé par les éditions L'Harmattan. C'est l'histoire gymnique de France. C'est un ouvrage collectif, mais en fait, c'est sur le club qui est fondé sur des notes d'un dénommé Georges Marguillier et qui est illustré de témoignages d'adhérents et d'adhérentes. Et figurez-vous que ce club est toujours basé à Villecresnes, en région parisienne. C'est l'un des premiers et l'un des plus anciens centres naturistes créés en 1930 sous forme associative. Alors l'ouvrage décrit la vie quotidienne de ces femmes, de ces hommes qui, jusqu'à aujourd'hui, veulent simplement vivre librement en contact avec la nature. Et comme le souligne le président du club, Bernard Tourette, dans son introduction, la pratique du naturisme a évolué au cours du XXe siècle. L'approche hygiéniste, santé et sport de nos prédécesseurs, je le cite, a laissé la place à la recherche du bien-être, à un art de vivre en accord avec la nature. Les valeurs du naturisme sont restées les mêmes, respect et convivialité. Vous revivrez l'histoire du club, son installation, donc en région parisienne, une approche passionnée, écrite et vécue par les adhérents de ce club. Et puis, je voudrais vous faire une petite citation, je vais la retrouver. Eh bien, c'est tout simplement Élisée Reclus, on le cite souvent dans cette émission, qui rappelle que le naturisme peut se définir comme une pratique tant socialisante que collective du nu dans la nature, le plaisir que l'on ressent à se baigner nu dans un ruisseau. Et Élisée Reclus le racontait en 1869 avec courage et détermination, c'est pas facile à écrire à cette époque, dans l'histoire d'un ruisseau, je cite Élisée Reclus, « sans être asservi par l'ignorance comme le sauvage, nous devons, et c'est quand même un peu comme connoté, certains termes, nous devons physiquement, libres comme lui, en nous plongeant dans l'eau, nos membres n'ont plus à subir le contact des odieux vêtements et avec les habits, nous laissons aussi sur le rivage au moins une partie de nos préjugés de profession ou de métier. Pareil aux hommes des anciens jours, nous sommes libres de toute convention. Notre gravité de commande peut disparaître et faire place à la joie bruyante. Nous, civilisés, qu'on vieillit, l'étude et l'expérience, nous nous retrouvons enfants comme au premier temps de la jeunesse du monde. Élisée Reclus, c'est assez étonnant. Alors bon, d'accord, le style est peut-être un peu daté, etc. Mais enfin, il y a vraiment des choses à travailler, il y a des choses à chercher. C'est assez intéressant. Je rappelle les références du livre. Georges Marguillier, Histoire du club gymnique de France, édition L'Harmattan, en 2024. Et Frédéric, en attendant notre invité, Monica Jornet, nous avons choisi, elle et nous, une chanson qui, j'en suis sûr, vous donnera à toutes et tous, auditrices, auditeurs, envie d'adhérer à ce parti. Oui, adhérons à ce parti, au parti d'en rire. Frédéric.
Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti, qui soit un peu comme un parti, un parti placé au-dessus des partis, en bref un parti,
oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti,
qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci, jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie, et que l'autre partie s'est partie, et compris qu'il faut être en partie réparti, tous en un seul parti, notre parti.
Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons placé nos idéaux bien plus haut
de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Notre parti, parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Que ce qui ne va pas aille encore mieux.
Parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Oui, pour vivre heureux. Prenons le parti d'en rire.
Oh, la joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire.
La franchité,
la sobriété,
la gaieté,
la bonne gaieté des familles.
Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui, c'est le parti. Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui.
Nos buts sont déjà fixés.
Faire que le veau d'or puisse se coucher.
Apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler.
Amnistier les portes condamnées,
à l'exception des porte-manteaux.
Tiens, ça rime pas.
Je sais.
C'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher.
Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an.
Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus.
Et pour prouver qu'on n'est pas chiche,
faire beurrer et tous les hommes sandwich.
Voilà quel est notre programme.
Et voici ce qu'est notre parti. Oui.
Et bien voilà. Je pense que vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers à avoir rejoint ce parti. Je crois que les cotisations sont assez faibles. Le montant tient compte simplement du plaisir de rire. Voilà. Depuis le début de l'émission, et ça va faire quand même un peu plus de 2 ans et demi, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et comme tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la célèbre librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver périodiquement des auteurs, et je crois que vers la mi-juin, mais on aura l'occasion de passer l'info à nouveau, on aura notre ami Philippe Pelletier qui viendra présenter son livre « Figure de l'anarchisme » au Cavalier Bleu, et je trouve ça intéressant. Vous serez assez surpris, parce que bon, moi-même, je me suis dit « bon, ça va être comme d'habitude, Bakounine, machin truc ». Bon, alors on retrouve, mais on retrouve aussi des femmes, on retrouve des militants qu'on ne connaît pas, qui sont un peu oubliés, et c'est bien, Philippe les présente avec un style assez dynamique, c'est parfait. Je rappelle aussi que les commentaires que nous présentons dans cette émission, et parfois d'autres d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, au fil des pages, tout simplement, qui reprend le logo de l'émission. Et puis, vous avez aussi la chronique qui s'appelle « Des idées et des luttes », qui est une chronique hebdomadaire sur le site du Monde Libertaire. Et nous essayons d'éviter de présenter deux fois les mêmes livres. Par exemple, là, dans l'article de cette semaine, nous présentons un livre « Vers Vermeersch ». Et vous découvrirez pourquoi dit-on vers Vermeersch, c'est-à-dire est-ce que c'est de la poésie, est-ce qu'on va vers ce personnage, qui était Vermeersch. Vermeersch, c'est un de ces communards, de ces journalistes, pamphlétaires, etc. Et qui a fait un très beau poème qui s'appelle Les Incendiaires et qui montre bien que la Commune, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'émission, la Commune n'était pas simplement une approche, comment dirais-je, la fin de souffrance, mais qu'elle a été un moment de joie. Et oui, ça a été un plaisir. La commune de Paris, au mois de mars, jusqu'à, j'allais dire, début avril, la Commune de Paris, ça a été un plaisir. Bon, une joie. Et puis après, évidemment, on aura la fin. Et ce livre présente le personnage Vermeersch, présente aussi le texte et montre la souffrance et puis ce que Vermeersch a essayé de faire dans la suite de sa vie. Frédéric est en train de me faire signe que nous n'avons aucune nouvelle de Monica Journet. J'espère qu'il y a encore des lignes téléphoniques. Parce que c'est un petit peu embêtant. Alors, on va poursuivre un petit peu notre analyse, notre texte. Alors tout d'abord, je voudrais que qu'Agnès reprenne. Elle voulait nous présenter un autre livre, un message caché, je crois, selon Holbein. Alors explique-nous un petit peu ce livre, en quoi consiste-t-il?
Oui, c'est un livre d'Alain Glicos.
Ah. Alors on a... elle appelle à 32 au lieu de 29. Allez, c'est parti. Alors, Monica. Allô?
Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends bien ou je monte un peu le
je
son?
Je t'entends très bien. Il est 32. Hein? D'accord? Bon, alors, donc, on a écouté la chanson « Le Parti d'en rire ». Je sais que tu es une militante ardente de ce parti. Bon, d'abord, tu es une militante, Monica. Tu es une femme de lettres. Tu es une enseignante, agrégée. Une femme de lettres aussi, parce que tu écris des poèmes. Et tu en es au quatrième volume, publié aux éditions Libertaires. Nous y reviendrons. Mais je voudrais rappeler que tu en distilles aussi sur le site du Monde Libertaire, dans la rubrique « Poésie en noir » et dans la version papier du ML. Ouais, non ?
Oui. Bonjour à nos auditrices et auditeurs et à toute l'équipe d'au fil des pages. En fait, dans le droit fil de ta présentation, je commencerai bien par la lecture de d'un poème, justement, de mon premier titre. Et le poème s'intitule « Veuillez décliner votre identité ».
Et tu nous parleras peut-être après de la pâte à physique ?
Exactement, ça sera parfait comme ça.
Voilà.
Donc là, je commence par une petite lecture, comme ça, ça mettra dans le bain.
Voilà.
Veuillez décliner votre identité. J'aime les accordéonistes, les anarchistes, les clowns tristes, toutes les artistes à mon ciel étoilé, à la voix éraillée et aux doigts de fée. Car je suis accordéonneuse, plus que jamais communeuse. Ni date, ni genre, ni nationalité je ne veux sur ma carte d'identité, que la mention athée, et pataphysicienne qu'à cela ne tienne. Car je suis accordéonneuse, plus que jamais communeuse. J'accordéonne sur mon temps libre, idéal, libre penseur, et sur l'air d'un couplet anticlérical entraînant, les enfants de la balle enthousiaste accompagnent parfois mes paroles iconoclastes, car je suis accordéonneuse, plus que jamais communeuse. Alors au sujet de la pataphysique, on peut lire au dos de mes livres en quatrième de couverture, membre du collège de pataphysique et passagère à la FFMC, Fédération française des motards en colère. C'est ma façon de dire que tout est sérieux et que rien ne doit être pris trop au sérieux dans ma bio. Donc, Alfred Jarry, le père de la pataphysique, aurait pu être mon élève en classe préparatoire au lycée Henri IV, où j'ai enseigné, mais ça n'a pas pu se faire, cornegidouille.
Ah.
C'est donc par amour...
C'est Père Ubu, là, non?
Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment par amour pour Ubu que je suis pataphysicienne, parce que Ubu, c'est la dérision du pouvoir. Et la pataphysique étant la science des solutions imaginaires, l'anarchisme aussi. Et que dire de la poésie qui tend tout entière à l'invention?
Oui, tout à fait. Alors... Tu publies des poèmes, mais pourquoi publier des poèmes dans des journaux anarchistes? C'est pas une traduction anarchiste, ça, si?
Bon, pas vraiment, parce que on a parfois publié les poèmes de poètes anarchistes, mais plutôt comme des paroles de chansons de lutte, plus que comme des poèmes.
Mmh.
En Espagne, oui. En Espagne, Lucía Sánchez Saornil publiait ses poèmes. Et avec beaucoup d'autres poètes dans la revue Mujeres Libres en 1936-1937. Mais actuellement, je ne vois que la presse anarchiste portugaise pour donner à la poésie une place importante. Par exemple, dans leur journal, A Batalha, dans leur revue culturelle libertaire, A Ideia. Et il y a aussi une maison d'édition, Barricada dos Livros, qui va publier cette année justement une anthologie de poètes anarchistes et ils m'ont sollicité pour envoyer mes poèmes qui donc vont être traduits en portugais pour la première fois. Voilà. Et bon, moi je publie donc en francophonie dans le Monde Libertaire.
Oui.
Moi, merci pour cette réponse favorable du comité de rédaction il y a à peu près un an pour créer ma rubrique Poésie en noir. Et pourquoi publier des poèmes dans des journaux anarchistes? Pour moi, la réponse est claire. C'est parce que les idées passent aussi bien et même parfois mieux par l'émotion, la sensibilité, l'onirique, de façon à la fois plus percutante, mais aussi plus légère. Pour certains sujets, je pourrais difficilement m'exprimer aussi ouvertement en public que je ne le fais dans un poème. Mais malheureusement, nous avons toujours tendance à privilégier l'étude à la création et à réduire finalement le champ de notre expression à la seule dimension du raisonnement argumenté en prose. Et bon, je vais donner un exemple. Par exemple, je peux lire un poème « Tout voile et toute voile dehors ».
Oui, très bien.
Que j'ai écrit en solidarité avec les femmes en Iran, en Afghanistan et ailleurs. Donc, le temps de trouver la page, voilà. Tout voile et toute voile dehors. Prendre le voile, porter le voile. Ce n'est pas votre choix, hors pression sociale, mais l'imposition d'une foi sexiste et patriarcale. Ce n'est pas une liberté, plénitude individuelle de conscience, mais un état de servitude collective dicté par l'obéissance. Sous le voile, la terreur des représailles est là, la peur de l'opprobre, de l'exclusion et de la condamnation. C'est être au bout de la lourde chaîne des menaces et des chantages, amarré à l'anneau de l'esclavage. Mettez les voiles, sœurs humaines. Et puis, toujours pour répondre à cette question qui est quand même très riche, c'est aussi publier de la poésie dans la presse anarchiste, c'est aussi une façon pour moi de dire et d'affirmer que l'art devrait trouver tout naturellement sa place dans cette société libre à laquelle nous œuvrons. Donc, on va commencer par le journal, pourquoi pas, hein, et par notre vie militante. Et cette idée que l'art devrait trouver sa place dans une société libre, je l'exprime dans mon manifeste poétique qui est en quatrième de couverture de mon premier livre. Et c'est assez court. L'art ne fait pas tourner le monde, car le monde ne tourne pas rond. Il ne valorise que ce qu'il marchandise, labellise ou dogmatise. Or, disons-le, l'art est aussi inutile que nécessaire, aussi gratuit que libre penseur. Formatages et fourches codines, écoles homologuées et cotes assignées sur le marché tuent l'art. L'art fuit les ismes, préférant dada au dadaïsme, l'anarchie à l'anarchisme. L'art académique, cet oxymore, n'est qu'une grosse bouée. L'art révolutionnaire ne sera jamais au service de la révolution. L'art est la libre expression de notre humanité, sa signature et le seul pardon qu'elle pourra s'accorder. Et puis enfin, dernier point, publier de la poésie dans la presse anarchiste, c'est, et je crois que nous l'oublions parfois, contribuer à conserver l'audace qui caractérise la presse anarchiste. Cette liberté d'expression iconoclaste, irrévérencieuse, dont on use pour déranger les pouvoirs, pour bousculer les certitudes, pour renverser les dogmes, exprimer notre colère et notre révolte. Et un jour, dans cette rubrique Poésie en noir, je proposerai bien mes couplets blasphématoires qui s'achèvent de cette façon, juste le dernier petit couplet comme un refrain qui dit « Jette l'anathème sur ce système, de l'extrême onction au baptême, et défends, liberté suprême, le blasphème. »
Eh bien voilà, hein, donc quelques pistes. Je vois que c'est assez fort. Parle-nous aussi de Gaston Couté, car tu le mentionnes dans Sansonnet, ton récent recueil. Il est originaire de Beaugency, c'est un poète libertaire, prolixe, il a beaucoup, beaucoup écrit. On peut retrouver ses textes aujourd'hui ou pas?
Alors, on peut les trouver très facilement, puisque son œuvre poétique complète, dans une nouvelle édition, a été publié récemment. Alors, quand je dis récemment, c'est l'année dernière, oui. Il y a 2 ou 3 ans maximum, par les éditions libertaires. Mm-hmm. Et donc, je suis très fière d'avoir le même éditeur que Gaston Couté.
Voilà.
Et Gaston Couté et moi, nous nous sommes sûrement croisés, puisque lui, il est allé à Paris, et moi, je suis venue dans le Loiret pour y faire vivre la poésie. Mais en fait, ce que j'aime chez les poètes, ce sont leurs poèmes. Peu m'importe en réalité leur biographie.
Oui.
Et donc, Gaston Couté, pour moi, c'est ses poèmes, l'amour anarchiste, les électeurs, la paix, des poèmes qui fleurent bon l'insoumission, une très profonde humanité, et dans cette langue bosseronne qui leur donne une saveur paysanne unique.
Alors j'aime bien poser cette question à une poétesse. Qu'est-ce que la poésie pour toi?
Ah, alors, j'ai envie de dire, d'une façon un peu peut-être pompeuse, c'est l'art littéraire suprême. En ce sens qu'il tend à faire converger le fond et la forme, le monde et ce que nous en ressentons. C'est une aspiration qui me fonde vraiment depuis l'enfance, mais que je dirais sans doute mieux avec un poème. Je vais lire Lac et entre Lac, qui est dans mon deuxième livre,
oui.
Livre pensée sous licence poétique, Lac et entre Lac. J'ai l'étrange nostalgie d'un poème perdu ou jamais écrit, d'un lac de montagne sur un sommet que je ne saurais plus retrouver. C'est en été et mon regard se pose sur ce noir miroir qui ne reflète rien. La vie absente flotte une paix indicible et stagnante. Ah, être poète et pouvoir nager dans ces eaux de glace sans troubler sa surface.
Sans troubler sa surface. Alors, il faut toujours une forme de courage, de volonté, de plaisir pour écrire. Hein. Bon, moi, j'écris pas de poèmes. L'auteur se révèle un peu, et en matière de poésie, il se révèle beaucoup, quoi. C'est pas évident. Comment arrives-tu à écrire ?
Alors, tu as parlé de courage, de volonté et de plaisir. Le plaisir, certainement. Que je ne vis pas du tout la création comme une torture, donc tant pis pour les idées reçues. et le plaisir est quand même très présent dans ma poésie. Je vais en lire un très très court, juste comme ça, une petite note, qui s'appelle Le lait du plaisir.
Alors, oui, j'aime bien. Oui, il est bien. Oui.
Voilà.
Oui.
Le lait, L-A-I, hein, au sens de cette poésie du Moyen-Âge qui, sur deux rimes alternées un peu à volonté, puis de la longueur qu'on souhaite. Donc, lait du plaisir. Goûtez au lait joli. Il y en a de six laits en leur bon dieuserie. L'enfer, on vous promet, le mien invite à la vie. Faites ce qu'il vous plaît en votre paradis. Alors,
il est court.
La volonté. Pour ce qui est de la volonté, je ne sais pas. La poésie, c'est d'abord une envie. Une envie de parler, une urgence de dire quelque chose. Donc, a priori, on est davantage dans la spontanéité. Et on est dans la spontanéité, mais aussi dans l'urgence. C'est-à-dire que, priorité à l'art, parce que écrire, ça ne se programme pas, en tout cas pas pour moi. Et qu'après, ça sera trop tard. Mais en revanche, après ce premier élan, oui, il y a la volonté, à des degrés divers, pour parachever cet élan. Parce que la poésie est spontanéité, mais elle est également très exigeante. Et puis pour ce qui est du courage, mes formes de courage, en poésie comme ailleurs, c'est la sincérité et ne pas reculer devant les obstacles. Et tout ça est absolument utile, voire indispensable en poésie. Je pourrais vous lire beaucoup, beaucoup de poèmes. Je propose Les Roses Noires.
Oui, alors c'est une variété très rare.
Oui, exactement. Les Roses Noires. La vie n'est pas toujours rose. On la voudrait arc-en-ciel. On la rêve rouge et noire. Notre vie est souvent grise. Les étoiles ne brillent pas toujours. On les voulait orange sur le sable, on les rêvait vertes sur fond rose. Nos étoiles sont souvent jaunes. Les idées ne sont pas toujours lumineuses. On les veut phares dans la nuit. On les rêverait à des années-lumière. Nos idées sont souvent noires.
Monica, il est déjà 48. Peut-être qu'on va. J'aimerais bien que tu répondes à une question, sans forcément donner lecture des trois poèmes que tu avais sélectionnés. Je suis dur, hein, c'est le temps qui passe.
Pas de souci.
Pourquoi écris-tu ?
Alors, donc sans lire, sans faire aucune lecture, de toute façon, à la base, on va dire, c'est pas très joli comme expression à la base, mais c'est l'amour infini des mots et des phrases que je fais sonner à mon oreille. En fait, je fais toujours sonner les mots et les phrases avant de les coucher sur le papier. Et cet amour des mots me pousse, des mots en français et des mots dans les diverses langues que je connais, mais il se trouve que j'écris en français. Je suis également sollicitée par ce qui m'interpelle et par ce qui me touche. Donc je vais écrire avec beaucoup de détermination contre la guerre, ou contre les violences, ou contre les discriminations, contre le racisme, contre la pauvreté, contre la souffrance. Donc il y a des poèmes contre, il y a des poèmes pour, avec autant d'enthousiasme pour la liberté, pour l'amitié, pour la fraternité. Et il y a beaucoup, beaucoup de poèmes qui sont des extases sur tout ce qui est si indiciblement beau que je veux essayer de le dire avec des mots. Donc voilà, on pourrait faire beaucoup de lectures. J'avais prévu d'en faire une sur les belles personnes et une sur les belles choses, et puis ça sera pour une autre fois.
Ça sera pour une autre fois, mais attends, voilà. c'est pas fini, on va pas se quitter, là il est 49, on a encore un moment. Je voudrais qu'on parle aussi de Montargis, de Main-sur-Loire, Le Loing, la région t'inspire, hein. Et Main-sur-Loire, un clin d'œil à l'ami François Villon, que tu évoques d'ailleurs dans un poème, et puis j'aime bien le poème Émo à Briard, peut-on l'écouter?
Oui, bien sûr. Alors, Émo à Briard. C'est dans le deuxième livre, celui-là. Je suis désolée, mais j'ai...
Tu les connais pas par cœur?
Certains, oui. Pas tous. Ouais. Oui, pour certains, oui. Ouais. Alors, c'est à Briard, près de l'ancienne manufacture d'Émo. Et en fait, cette ancienne manufacture a déversé pendant des décennies des faïences dans la forêt. Il faut un peu chercher le coin. Et quand on le trouve, c'est merveilleux. Le sol est jonché de petits bouts d'émo de couleur. D'où cette forme de monticule que j'ai donnée au poème, qui va être un peu moins perceptible à la lecture.
Mmh. Oui.
À Briard, près de l'usine le long du canal, tapissant les sentiers, cassé, fissuré, entier, poser son regard ou creuser au hasard, les cueillir un par un, vert, noir, bleu, jaune, blanc, gris, ocre, rose, rouge, or, ou par deux, violet, marron, turquoise, orange. Mosaïque des mots, sous un amas de mots.
Je sais que tu attaches beaucoup d'importance à la forme de tes poèmes, hein, et quand on publie dans le Monde Libertaire version papier, tu veilles à l'italique, au romain, mais tu veilles aussi, évidemment, dans tes livres, comme dans Faites vos jeux.
Oui, dans Faites vos jeux, je joue avec l'italique parce que c'est une... C'est une façon de faire comprendre que c'est un dialogue entre deux personnes. Parce que autrement, moi j'écris pour les autres, hein. J'écris pour être lu, j'écris pour être entendu. Donc voilà. Donc c'est un code. Et après il y a des poèmes où il y a d'autres buts. Par exemple dans Street Art, Free Art, comme c'est un hommage aux arts de la rue, par exemple, j'ai voulu décaler un peu les strophes. Et voilà, c'est des petits signes comme ça pour rompre une convention. Je préférerais lire celui-là, si ça ne te dérange pas.
Oui, vas-y.
Street Art, Friard, ça te va? Oui. L'art survit hors la loi et contre les honneurs, dans l'underground, les failles du système, les espaces encore publics, la rue. Musique s'envolant légère à travers le dédale piétonnier, improvisée sur des flûtes à mousseux, des tuyaux de plomberie, presque non commanditée, couverte d'appels à manifester, craie de couleurs effacées par la pluie sur un trottoir déserté, chansons et flammes virevoltantes, sculptures en métal recyclé, rideaux éphémères entre deux arbres devant le théâtre de la ville. L'art de la rue n'a pas pignon sur rue, ces artistes, non autorisés, non patentés, y inventent la liberté, la gratuité, le droit de cité, une nouvelle société.
Texte, il est paru celui-là sur le site sur Le Monde Libertaire.
Je pense que c'est Poésie en noir du mois dernier ou ah oui du mois dernier.
Oui, mois dernier.
Tout à fait, tout à fait. Celui-là, donc, il est publié.
Voilà.
Avec le petit décalage de strophe.
Là, ce que je ne peux pas faire lorsque je gère le site du Monde Libertaire.
C'est ça.
Alors, tu évoques aussi souvent la nature, les oiseaux, les fleurs. Tu joues avec le nom des plantes et des papillons. C'est assez joli d'ailleurs, parce que il y a des noms qui sont très très poétiques en soi.
Oui. Alors, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans le titre, dans mon troisième livre qui s'intitule Feuilles volantes, qui a été écrit en vers libre au fil des saisons. Donc, ça parle beaucoup des oiseaux, des papillons que j'aime depuis toujours. Mais il y en a quand même aussi dans les deux premiers livres. J'aime les papillons depuis toujours et je vis avec un ornithologue. Donc, je suis très sensible et sensibilisée aussi à la rapide disparition de la faune sauvage. Je souhaiterais lire, alors j'espère qu'on va avoir le temps, parce que là je commence à se presser du coup.
Bah oui, 54
Mais je lirais bien un poème sur les oiseaux, qui sont les oiseaux de nos balcons, de nos jardins.
Ah oui, les oiseaux résilients.
Voilà.
Ouais.
Ça te va ?
Oui, vas-y.
Oiseau résilient, pour combien de temps ? La rouge queue à front blanc depuis sa tour de guet inspecte et s'envole en un éventail flamboyant pour rater au vol quelque insecte. Épi rouge, croupion jaune en quête de fourmis, s'avance militaire un pic vert sur la prairie. Est-ce madame à la moustache noire ou monsieur qui ricanait hier soir ? La pie en frac noir à la longue queue mobile, irisée de vert sur un jabot blanc, paraît. Si sélecte, elle aime tout ce qui brille. Rien pourtant ne la débecte quand le rude hiver vient et les temps difficiles. Une nuée d'étourneaux et étournelles s'abat le soir venu sur le séquoia hospitalier pour se raconter pêle-mêle la journée écoulée. Ah, pouvoir partager toutes ces nouvelles! Tels des jets d'encre, les mésanges charbonnières de notre balcon familière, noir, jaune, blanc, d'un olivier d'école pour faire leur fête aux graines de tournesol. Une volée de moineaux sautillent, picorant, gaiement, ci et là, mutins, de buisson en buisson babille, habillant fleurs et arbustes de brun. Un merle chantait si bien sur le faîte du toit qu'il a trouvé une merlette qui en a fait son roi. Leurs jeunes les pressent encore de le nourrir, mais ils se décotent déjà en pensant à l'avenir. Les traces d'un rouge-gorge dans la neige immaculée au petit matin. Sur la grille verte, il est perché au fond du jardin. Œil rond, ventrelet arrondi par le froid, il se rengorge. Tourterelles, geais, sittelles, d'autres encore et tous, au fil des saisons par le jardin hébergé, tandis que l'herbe pousse sous la lune rousse. Nous chez eux, eux chez nous, pour un sort partagé.
Eh bien voilà, alors tes textes ont des formes variées. Bon, libre pensée sous licence poétique, feuilles volantes, sans sonnet et sans sonnet, mais je laisse aux auditeurs, auditrices le soin de découvrir le jeu. Tu souhaites qu'on s'attarde sur certains livres, on n'a pas vraiment le temps. Je voudrais simplement poser une question, est-ce qu'il y a une logique dans l'enchaînement de tes livres et des poèmes ?
En fait, chacun de mes livres répond à un projet différent. C'est à la fois un projet, mais c'est aussi un projet qui s'est imposé à moi. Et quand il s'épuise, je passe à un autre. Et je ne décide pas vraiment, en réalité. C'est pour ça que j'ai davantage lu Libre Pensée sous licence poétique, qui est un diptyque, qui est écrit en forme fixe de la poésie française et aussi en forme libre. Quand ces deux livres ont été finis, j'ai eu envie d'écrire des formes complètement libres, feuilles volantes, 142 poèmes en forme libre au fil des saisons. Et quand ce projet a été terminé, j'ai eu vraiment envie d'écrire des sonnets. Donc il y en a 100 sonnets comme les oiseaux. Et à cette période, je n'aurais pas écrit autre chose que des sonnets. Pendant plus d'un an, je n'ai écrit que des sonnets. Voilà. Et maintenant, je suis dans un autre projet qui n'a plus rien à voir.
D'accord.
Et donc, oui, il y a un enchaînement et il y a une logique.
Alors, certains sont des drapeaux. On a rien qu'au titre, on a révolutionnaire, liberté, contre la prison. D'autres sont plus délicats. Est-ce la pluie, les livres ou la vie? D'autres encore sont des clins d'œil, les notes musicales. Ça fait référence clairement à un poème qu'on aime bien. Et dans une émission consacrée aux livres, est-ce que tu pourrais nous lire les livres ou la vie?
Bien sûr. Alors, les livres ou la vie, c'est dans le premier. Voilà. Les livres ou la vie. Livres enfouis sous l'oreiller avec les premières dents de lait, lus secrètement et par osmose en dormant. Livres de poche mis à l'index au garage avec clouterie, visserie et outils de bricolage, lus dans la voiture en cachette de la mère. Livres anciens d'auteurs antiques sur les étagères avec interdiction d'y toucher d'un père bibliothécaire, lus à la dérobée les beaux jeudis avant son retour. Livres jeunesse, tamponnés, empruntés à l'école avec leur cote en lettres, gourmandises folles, lus librement d'une traite les samedis dimanches. Livres commandés à la source, colis en livraison avec leur timbre d'Espagne et à mon nom, lus, relus, recopiés, déclamés et récités. Livres repérés comme on note une idée, avec envie, qu'on poursuit et qu'on fait danser, qu'on saisit au vol comme on vole un conseil. Et plus tard, acheté d'occasion à l'occasion, mais souvent neuf, attendu, anticipé et échelonné, coché sur catalogue papier ou raflé dans la librairie du quartier, déjà crayonné ou encore non coupé, déniché chez une très vieille libraire, feuilleté parmi les nouveautés d'un salon, exhumé de la boîte verte d'un bouquiniste, consulté dans les bibliothèques publiques, servi frais comme le pain, par une librairie vélo. Échangé, prêté, troqué, de la main à la main, déposé et repris, œil pour œil, livre pour livre, laissé en partage, sur un banc public, les livres ou la vie.
Dans une émission consacrée aux livres, c'est parfait. Mais Monica est aussi photographe, figurez-vous. Et ses couvertures, ce sont ses photos. Alors, on a la place Mirabeau, le sol, un mur à Napoli. Pourquoi as-tu choisi le sol, un mur? Qu'est-ce qui guide là? Qu'est-ce qui guide Monica?
Alors, oui, c'est vrai que c'est moi qui propose les photos de mes couvertures. Alors, dire que je suis photographe, disons que je suis poète, mais je fais des photos avec mon œil de poète. Donc, effectivement, il y a un lien avec les livres. En fait, en photo, j'aime saisir ce qui n'avait pas du tout pour vocation d'être de l'art et qui, dans le cadre d'une photo, devient de l'art. Dans un poème de feuilles volantes, je dis « La rue a de ses beautés accidentelles ». Et donc, la photo de la place Mirabeau, pour mon dernier livre, c'est une photo qui a été prise à l'aube à Montargis après les émeutes de 2023. Donc, j'ai vu beaucoup de photos, mais je crois que personne n'a eu l'idée de photographier les pavés brûlés. Et moi, j'ai trouvé vraiment que c'était extrêmement beau et que ça disait beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, des projets de livres?
Alors, en ce moment, je travaille à mon prochain livre qui va s'intituler « Noyau de pêche », qui avance bien et qui devrait sortir en 2025. Et cette fois, un nouveau projet, je suis partie, sans exclusive, parce qu'il n'y a aucun livre qui soit monocolore, en fait. Mais je suis partie sur le conceptisme.
C'est-à-dire ?
Le conceptisme, c'est une forme de poésie qui a été beaucoup pratiquée au siècle d'or espagnol, que je connais bien. J'ai même fait un mémoire de maîtrise sur un poète conceptiste. Donc c'est une poésie minimaliste, pas minimaliste au sens où on l'entend maintenant. C'est-à-dire que ça doit être avec une économie de moyens maximum et le mot et l'idée doivent maximum coïncider. C'est assez exigeant et voilà.
Bon.
Et ça me plaît en ce moment de faire ça.
Bon, alors on aura le plaisir de te réinviter pour nous éclairer sur cette... à la fois sur cette période, parce que ça m'intéresse beaucoup, je suis plus sûr que ça intéresse beaucoup de gens, et puis pour nous présenter ce dernier ouvrage.
Avec plaisir.
Le lecteur peut trouver les livres de Monica Jornet à Publico, les commander, mais est-ce qu'il y a d'autres librairies qui les accueillent, puisqu'on est écouté à Paris et dans le monde entier, bien sûr.
Non, toutes les librairies, n'importe quelle librairie traditionnelle ou en ligne, voilà.
Voilà. Qui passe, on peut les commander aussi sur les éditions libertaires.
Également sur le site des éditions libertaires, tout à fait.
Mmh. Eh bien, écoute, Monica, merci beaucoup et à bientôt alors.
Ouais, merci Francis et merci Fredo à la technique.
Merci. Allez, au revoir. À bientôt. Une demi-heure de poésie, c'est intéressant parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous avez un petit peu écouté les actualités et notamment sur les chaînes nationales, mais il semblerait qu'une émission sur une radio nationale publique consacrée à la poésie est menacée. En effet, on préfère avoir d'abord pas forcément beaucoup de musique, ou en tout cas c'est pas forcément de la musique d'une très grande qualité, mais alors parler de poésie, pouvoir discuter avec un auteur ou une autrice, eh bien nous on le fait avec plaisir. Et puis n'oubliez pas que dans l'émission Femmes Libres qui nous suit, eh bien il y a Sandrine Malika Charlemagne qui présente aussi des poètes et leurs œuvres. Et je rappelle que eh bien vous allez sur le site du Monde, sur le site du Monde Libertaire, et vous verrez une annonce, une interview de Sandrine Malika Charlemagne qui va passer au 30e Maghreb du livre, je vais y arriver, à l'Hôtel de Ville, à Paris, et elle va présenter deux de ses livres, un recueil de poèmes, et puis un roman. Voilà. Donc, ce sera le dimanche 2 juin, début d'après-midi. Je crois que nous avons désormais Dominique.
Oui.
Bonjour Dominique. Alors,
bonsoir.
On est sur les romans de la vie avec toi. Et là, on va parler d'un livre, Olivier Rollin, Jusqu'à ce que mort s'en suive, paru chez Gallimard, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mmh.
Bon, alors, qui est Rollin, déjà ?
Alors, c'est un ancien militant d'extrême-gauche, et puis il a écrit pas mal de romans, de récits de voyage et d'essais.
Oui, il était plus particulièrement à la gauche prolétarienne.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est son livre, là, Jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est un essai, un roman, un livre historique, c'est quoi ?
Oui, c'est plutôt une enquête historique et littéraire très personnelle qui s'appuie sur d'autres écrivains, sur Hugo ou Charles Dickens, et sur une importante documentation qui nous fait revivre un peu le souffle révolutionnaire du 19e siècle. En fait, Olivier Rollin a été intrigué par un court passage des Misérables et qui parle de deux meneurs de barricades. Et donc ça lui donne envie d'en savoir plus, puisque en fait ce sont deux personnages réels, et Olivier Rollin dit que les livres servent à en susciter d'autres. Donc il s'appuie sur ce livre pour écrire le sien.
C'est une des raisons pour lesquelles on finit jamais de lire, les gens qui me disent mais t'en as encore beaucoup des livres à lire. Bah oui, tout.
Oui, c'est un puits sans fond.
Oui.
Et il va s'appuyer aussi, pas seulement sur Hugo, mais aussi sur Balzac, sur Eugène Sue, sur Gautier, sur de la peinture qui permet de superposer des lieux et des atmosphères.
Oui, c'est étonnant d'ailleurs parce que Eugène, Hugo, Balzac, Gautier, bon, encore qui lit encore Gautier aujourd'hui, ouais. Mais Eugène Sue est
complètement
oublié, alors que.
Oui.
Alors que il a écrit des livres, des feuilletons qui étaient des succès extraordinaires.
Hein. Oui.
Bon, alors c'est vrai que la peinture, etc., ça l'aide donc à superposer des lieux, des atmosphères.
Oui, oui. Mm. Et donc je vais rappeler le passage là des Misérables. C'est au début du cinquième tome des Misérables, celui où Gavroche tombe sous les balles des gardes nationaux. Mm. Donc Victor Hugo fait une digression sur les deux plus mémorables barricades qu'ait connue l'histoire sociale. Alors, pas l'insurrection de 1832, mais lors de la révolte ouvrière de juin 48,
oui.
Peu après la proclamation de la Deuxième République. Mmh. Alors, ces barricades étaient à l'entrée du faubourg Saint-Antoine et à l'approche du faubourg du Temple. Il y en a une qui atteignait 2 à 3 étages, hein, une hauteur de 2 à 3 étages, et Hugo les surnomme Charybde et Scylla, hein, donc pour montrer l'effrayante... ces effrayantes barricades.
Enfin, l'effrayante, c'était les barricades qui luttaient contre le pouvoir. Voilà,
oui. Non, mais Hugo a été impressionné. Hein.
Oui, d'accord.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, bien sûr, Rollin s'appuie sur pas grand-chose parce que les informations hugoliennes manquent ou se contredisent. Donc, il annonce ses limites. Hein. Il y a peu de ces deux meneurs, il avance des hypothèses, avoue ses erreurs. Je vous lis un passage sur la révolte là de 1848.
Du prolétariat, oui.
Oui. Alors donc du 23 au 26 juin, le peuple de l'Est parisien, toujours l'Est, hein, qui s'est soulevé contre la République dépossédante dominée par les monarchistes. Ce n'est pas pour asseoir un régime de grands propriétaires, de généraux et de prêtres qu'on a chassé Louis-Philippe, le roi bourgeois. Derrière leur forteresse de pavés, tous les métiers du prolétariat d'alors, cordonnier, débardeur, plâtrier, chauffournier, ferblantier, fondeur, émouleur, marbrier, bronzier, ciseleur, cambreur, sertisseur, corroyeur, typographe, zingueur, tourneur, tableautier, taillandier, noms dont beaucoup ne nous évoquent plus rien, qui ont disparu. Les combats font des milliers de morts de part et d'autre. 7 généraux y sont tués, plus qu'à Waterloo, paraît-il. La répression est absolument sauvage, préfigurant celle de la Commune 23 ans plus tard. Mmh. Donc voilà le cadre. Hein.
Mmh. Alors, qui sont ces meneurs ?
Alors, il y a Barthélemy, c'est un ouvrier blanquiste, fanatique, et Cournet, un officier de marine, partisan, lui, de Ledru-Rollin.
Mmh. Ledru-Rollin, républicain, voilà.
Hein. Oui. Mmh. Leur physique et leur caractère sont très différents. Frédéric Cournet était un homme assez gros, herculéen et tonitruant, alors que Barthélemy est maigre, chétif et pâle. Selon Hugo, c'est une espèce de gamin tragique. Alors, dans la première partie qui se déroule à Paris, on lit le récit de l'évasion de Barthélemy de la prison du Cherche-Midi. Donc, évasion assez spectaculaire, parce que Barthélemy, il n'est pas arrêté que pour des raisons politiques. En fait, c'est aussi un délinquant. Hein. Les deux, d'ailleurs, hein, ils ont des tas d'histoires, même en France, avant de faire ces barricades. Les deux hommes vont, à la suite des barricades, les deux hommes vont s'enfuir à Londres pour différentes raisons, je vous dis, qui ne sont pas que politiques. Et ils vont se vouer une haine terrible, alors qu'ils défendent, en fait, la même cause, la liberté. Hein. Alors, Rollin préfère Barthélemy parce qu'il le voit comme l'équivalent de Spartacus, hein. Il y a de l'humour parce que à un moment il dit que Barthélemy avait projeté de tuer Marx. Et Rollin aussi. Et il dit pour Marx quelle perte, car il n'y aurait pas eu le livre Le Capital s'il l'avait tué.
Alors il y a une haine là qui se termine duel alors.
Oui, alors c'est un duel mémorable. Hein. On doutait qu'on allait en arriver là. Donc c'est le dernier duel qui eut lieu en Angleterre en 1852 et la presse s'en fit largement l'écho pour critiquer ces deux Français révolutionnaires que le pays avait l'obligeance d'accueillir. Mmh. Donc c'est une partie pleine de suspense et ressemble à un thriller parce qu'on ne sait pas qui va gagner. Alors Cornet est sûr de lui, comme c'est un militaire, normalement c'est lui qui devait gagner, mais en fait... il va refuser le duel à l'épée et c'est Barthélemy qui va tirer sur lui.
À 20 pas, quoi. Hein
oui,
là, c'est 20.
Donc l'officier de marine meurt Et Barthélémy va bénéficier d'un verdict clément du tribunal anglais qui le condamne seulement à 7 mois d'emprisonnement parce que c'est un duel et c'est encore admis.
D'accord.
2 ans après le duel, Barthélémy, dans des conditions qui restent mystérieuses, tue un certain George Moore, toujours à Londres, un riche négociant qui finançait son mouvement. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu mettre la main à la patte? Et il aggrave son cas en tuant dans sa fuite un des poursuivants et il va être condamné à la pendaison. Et il sera enterré à Londres. Son convoi funéraire est suivi par les exilés français derrière des drapeaux rouges que les Anglais n'ont jamais vus. Ils n'ont jamais vu autant de monde derrière des drapeaux rouges. Et on dit même que la reine Victoria s'est arrêtée sur le lieu du duel. Donc ça a été très très marquant chez les Anglais.
Il y a quelques points que tu considères comme étant peu utiles.
Oui. Peu utile. Alors, il y a des pages entières consacrées au repérage du romancier dans le Londres et le Paris d'aujourd'hui, à la recherche des traces du passé. Alors, il fait l'inventaire des kebabs actuels, des magasins exotiques, des couloirs de bus, des opticiens. Je pense que ça présente pas un grand intérêt pour l'histoire. Mm-hmm. Il y a même des références au massacre du 13 novembre dans le 11e, et j'arrive pas toujours à faire le
Bataclan.
Oui, alors peut-être c'est la notion de massacre, mais c'est quand même pas le même.
Oui, le lien n'est pas toujours évident, oui, c'est vrai.
Bon, et
il y a un autre défaut aussi.
Oui, j'ai constaté dans plusieurs livres historiques de jeunes auteurs, ils essayent de placer leur vie privée. J'avais vu ça sur un livre concernant la révolte des filles détenues à Fresnes. Et Olivier Rollin se met en scène. Par exemple, il dit qu'il a été à l'école communale de la rue de l'Amiral Roussin dans le 15e. Il se souvient de ses retards et de l'apparition du stylo bic. Alors là aussi, je ne vois pas le lien avec. D'autant plus que l'action se passe dans le 11e. Bon, mais on lui pardonne, parce que c'est quand même très enlevé comme style.
Bon, retenons la référence à Hugo et puis ce Paris du 19e où ça bouillonnait d'idées, de révolutions et autres. Alors. Oui. C'est le 12 juin, tu nous parleras d'un autre livre.
Oui, donc L'usure d'un monde de François-Henri Désirable, qui raconte, c'est d'actualité, la traversée de l'Iran d'aujourd'hui.
Oui, alors là, on est en plein dedans, oui.
Oui, c'est une référence à Nicolas Bouvier qui avait fait le même voyage. Et donc, il va actualiser le voyage et nous expliquer tout ce qu'il a vu de bien et de pas bien, évidemment, en Iran.
D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci et on se retrouve bientôt.
Oui, allez, bonsoir.
Bonsoir, Dominique. Agnès, nous reprenons ce... On t'avait interrompu, là. c'est le problème du direct, hein, voilà. Donc, un message caché selon Holbein.
Oui, donc je disais un livre d'Alain Glicos, paru aux éditions Atelier Henri Dougier, de la collection Le roman d'un chef-d'œuvre en 2024. En fait, cette maison d'édition, les Ateliers Henri Dougier, dans sa collection Le roman d'un chef-d'œuvre, s'est toujours attachée à raconter d'une façon romanesque l'histoire authentique d'une œuvre de quelque époque qu'elle soit. Alain Glicos est historien et professeur de philosophie. Fasciné par cette œuvre particulière de Hans Holbein le Jeune, il nous raconte les conditions de création du fameux tableau Les Ambassadeurs. Ce tableau est à ce jour conservé à la National Gallery à Londres. C'est l'époque de la Renaissance, en 1533, année où la toile est peinte. L'Europe est un peu en désordre en raison des conflits entre Charles Quint et François Ier et Henri VIII en Angleterre avec la papauté, qui lui refuse son divorce avec sa première épouse, Catherine d'Aragon, qui ne lui assure aucun héritier. François Ier profite de cette occasion pour rapprocher Anne Boleyn, dame de compagnie de la reine, du roi Henri VIII, par l'intermédiaire de son ambassadeur, Jean de Dinteville, à Londres. Ce rendez-vous de diplomatie chargé d'apaiser les conflits entre le roi Henri VIII et la papauté n'aura aucun succès et le monarque créera l'église anglicane l'année suivante malgré tous les efforts de François Ier. Au-delà du contexte historique, il est aussi important de rappeler que c'est une époque de connaissances intellectuelles en toute matière, philosophique comme mathématiques, arithmétique, astronomie, horlogie. horlogerie et autres, et que les éditions se multiplient et se diffusent. Nous en verrons les conséquences lors de la description du tableau. Ce sont aussi les premiers conflits entre luthériens et catholiques.
Alors, ce roman.
Alors, en 1555, le peintre italien Domenico Pucci rentre de Londres et se rend en France pour rencontrer au château de Polisy près de Troyes, Jean de Dinteville, pour voir le tableau des ambassadeurs dont il est le propriétaire. Jean de Dinteville, donc le fameux ambassadeur de François Ier, lui racontera ses retrouvailles avec un ami précieux, Georges de Selve, diplomate français mais aussi évêque de Laveur. Ils rencontreront Hans Holbein le Jeune, peintre officiel de la cour d'Angleterre, d'origine allemande, célèbre pour ses portraits. Holbein vit près du port de Londres, dans ce qu'on appelle le quartier allemand, pour nourrir sa famille restée en Allemagne, et il est très apprécié et côtoie des personnes érudites comme Thomas More, philosophe et humaniste, et s'invite à quelques conférences en Suisse à ce propos. Il a rencontré aussi Erasme, Paracels, s'intéresse à Copernic et cherche en peignant, je cite, « à peindre la vérité, montrer ce que contiennent les âmes et pas seulement ce que fait paraître le corps ». Jean de Dinteville demande à Hans Holbein de réaliser un double portrait de lui et de son ami. Après quelques hésitations et discussions, cela se réalisera. Mais Hans Holbein avait pour habitude de travailler sur des petits formats de bois de chêne pour ses portraits. Et il en faudra 10 collés les uns aux autres pour arriver à composer ce tableau. Et devant l'original, il n'est pas possible de distinguer cette technique. L'histoire raconte qu'on leur demandera de suggérer le décor souhaité. Bien sûr, venant de personnes de culture, ils multiplieront les objets suggérant le progrès de l'époque. Globes terrestres et célestes, luttes et flûtes pour les instruments de musique, livres des cantiques, livres de mathématiques et instruments de géométrie. Premiers instruments d'horlogerie. Regardez le tableau et vous serez surpris par le fourmillement de détails traduisant les apports intellectuels de cette époque. En fait, sur ce tableau, on distingue deux personnes habillées dans leur apparat de l'époque, chacun reflétant sa notoriété et son influence par les objets ajoutés à leur main ou à l'appui d'un coude. Un luxe de l'époque, une tenue de rigueur officielle en fait. Ce tableau est très riche et complexe par son iconographie. Il est plein de détails, chaque objet ayant une signification sublimée, une symbolique très particulière, pour beaucoup politique de l'époque. Les deux illustrateurs ambassadeurs sont majestueusement représentés, leur habit ne manque pas de détails jusqu'au velours vert qui recouvre le fond de la scène. Du tapis sur lequel reposent des objets, en passant par le luth auquel il manque une corde, le réceptacle de flûte, tiens, il en manque une, le livre des cantiques lisible, d'une page en latin et de l'autre en langue vulgaire. Rien n'est laissé au hasard jusqu'à une anamorphose d'un objet qui ne se voit que sur un certain angle. Mais cette anamorphose constitue un vrai mystère qui fascine le spectateur. Je n'en dirai pas davantage, lisez-le, c'est une forme d'escape game à lire, à regarder de très près, c'est passionnant, un magnifique parcours. Je vous en rappelle le titre, Un message caché, selon Holbein, d'Alain Glicos, aux éditions Atelier Henri Dougier, collection Le roman d'un chef-d'œuvre de 2024.
Alors effectivement, j'ai eu l'occasion moi de voir le tableau à Londres. C'est fascinant et notamment cette chose très bizarre au milieu du tableau. Vous voyez rien et puis vous vous penchez d'une certaine manière et là vous voyez, vous voyez quoi. Bon, je ne vous en dis pas plus. Hier, nous arrivons à la fin de notre émission. Hier, le 21 mai. Attention. Le 21 mai 1871 commençait l'effroyable tuerie dite la semaine sanglante de la Commune de Paris. Je vous renvoie au livre de Gérald Dittmar, Albert Robida, Paris pendant la Commune de 1871, publié aux éditions Dittmar, avec des croquis de la Commune de Paris réalisés par Albert Robida. Et en guise de commémoration. Et avant de nous retrouver le samedi 25 mai au mur des Fédérés, comme Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, écoutons une chanson d'Eugène Potier, écrite en 1870, mais elle était pour les militants qui n'avaient pas le droit de parler de cette commune jusqu'en 1880. Elle était un symbole. Elle est interprétée par Mouloudji et s'appelle évidemment « Quand viendra-t-elle ?» Frédéric.
J'attends une belle enfant. J'appelle, j'appelle, j'en parle aux passants. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. J'appelle, j'appelle, j'en parle aux passants. Que suis-je sans elle, un agonisant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Que suis-je sans elle, un agonisant. Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Transi quand il gèle, sans gîte souvent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Transi quand il gèle, sans gîte souvent. J'ai dans la cervelle des mots et du vent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. J'ai dans la cervelle des mots et du vent. Un bétail on m'attelle, esclave on me vend. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Bétail, on m'attelle, esclave, on me vend. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Ah, viens ton la belle guérir ton amant. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. L'attendrai-je encore longtemps.
Voilà, je voulais aussi vous présenter un livre, mais nous n'avons pas le temps. Le temps passe trop vite entre gens de bonne compagnie. Le livre de Mélanie Fabre, Hussarde noire des enseignantes à l'avant-garde des luttes, paru aux éditions Agone en 2024. Le commentaire de ce livre, vous pouvez le retrouver dans la chronique des idées et des luttes. Non pas celui de cette semaine, mais celui de la semaine dernière. C'est vraiment un livre tout à fait passionnant de ces dames qui se sont battues pour que les filles aient le même enseignement que les garçons, un enseignement de qualité, et qui étaient des militantes et des militantes de la laïcité et qui ne vivaient pas d'atermoiement. Voilà, chers amis, des livres que nous souhaitions vous présenter. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute. Le mercredi 12 juin 2024, nous recevrons Isabelle Felici pour nous parler du livre « Anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale » publié aux éditions Atelier de création libertaire. D'ici là, bonne lecture, je crois que vous avez de quoi faire. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. Nous laissons la place à nos amis de Femmes Libres. À bientôt et au plaisir de partager.
Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qui n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Se libère.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
terre du Salvador et du Chili, terre du Nicaragua et terre du Uruguay, et vous, terres africaines, taisez-vous de vos chaînes, terre sculptée de noir, coupant le blues de l'espoir.
Bonsoir à toutes et tous. 21e émission de cette année 2024. On sait que on s'approche de la mi-année quand on note comme ça les émissions, puisqu'on fait une émission toutes les semaines. Donc, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître. Alors, sans Dieu, sans déesse peut-être, sans maître, sans maîtresse et sans publicité. Voilà, c'est la radio de la Fédération anarchiste avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et au programme ce soir, comme toujours, féminicide par compagnon ou ex, et on en est déjà au 39e, rien que des féminicides par compagnon, hein. Ensuite, Isabelle Thieuleux, avocate, qui questionne la notion du consentement. Isabelle est déjà là. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Hélène. Bonsoir Sylvie.
Et ensuite, des infos, des communiqués, des rendez-vous. Mais avant de démarrer les féminicides, je voudrais rappeler que Pinard Selleck sera à nouveau en procès à Istanbul et que à cette occasion... évidemment, elle peut pas y aller puisque elle est, si elle rentre sur le territoire de la Turquie, elle est immédiatement arrêtée. Donc, elle est toujours en France et enseignante à l'université de Nice. Mais à l'occasion de son procès, des amis vont aller là-bas, bien sûr, pour soutenir Pinard et seront donc en Turquie. Et elle va avoir un certain nombre d'initiatives et le lundi 20.